Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 2 octobre 2023, c'est l'automne et jusqu'ici ça va. On est ensemble pour une heure d'info citoyenne et indépendante en région. Bienvenue dans Altermidi en escapade, heureux de vous retrouver. Une émission qui se prolonge et complète les contenus du bimédia citoyen indépendant d'Altermidi en partenariat avec Radio Escapade. Au menu du jour, pas loin de chez vous, nous sommes allés à la rencontre d'Annie et Olivier qui nous parlent de l'atelier, le café citoyen de Valrogue, qui vient de faire sa rentrée. Dans quel monde vivons-nous, Alter Minimag, qui vient d'arriver en kiosque et qu'on peut trouver dans les locaux de votre radio préférée, a choisi de le demander à la jeunesse. Toute l'équipe d'Altermidi s'est mise à l'écoute. Nous sommes allés à la rencontre d'une quinzaine d'entre eux de différents âges, milieux et contextes. Et vous savez quoi? La majorité des jeunes que nous avons rencontrés se posent des questions éminemment politiques, en lien direct avec la crise démocratique. Alors, à quoi se heurte la volonté politique de mobiliser les jeunes, de les impliquer de manière citoyenne dans la construction des projets qui les concernent? Nous en parlerons avec Sandrine Floreuse, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne, en charge du dialogue citoyen, des égalités et de la jeunesse. Si la rentrée scolaire est déjà derrière nous, beaucoup de lycéens n'ont toujours pas d'affectation. On ira voir de ce côté-là aussi. Et nous conclurons cette émission dédiée à la pluralité des jeunesses avec Rachel en écoutant un extrait de notre rubrique Hiatus, produit par la poète Lily Frick qui converse à cœur ouvert avec cette jeune fille de 15 ans. Partons à la rencontre d'Annie et Olivier qui ont créé, avec d'autres habitants de la vallée, l'atelier à Valrogue, un café citoyen dans le village des Cévennes de 1300 habitants. En à peine 18 mois d'activité, il compte déjà 273 adhérents. Une très belle initiative ouverte et informelle qui articule à travers ses actions un réseau de sociabilité et de solidarité intergénérationnelle. L'équipe bénévole de l'atelier travaille dans la complémentarité avec le tissu social et artistique et contribue à revitaliser la vallée. Alors on est le 23 septembre, ça doit être le premier jour de l'automne, devant le café associatif L'Atelier à Valrogue, avec Annie et Olivier qui sont à l'initiative de ce projet.
Entre autres.
Et donc c'est un projet de café citoyen à Valrogue. L'histoire du départ.
Une bande d'amis qui avaient envie de créer quelque chose et un local s'est libéré et on a foncé, on a créé un café associatif et d'autres membres nous ont rejoints, le bureau a changé et voilà, on est ouvert toute l'année pour tous les habitants, 3 demi-journées par semaine et on essaye de faire des activités assez éclectiques. Conférences, concerts, jams, ateliers tricot, accueil des enfants et d'être aussi tout bêtement un lieu où on peut venir boire un verre tout un après-midi et rencontrer ses voisins et rencontrer les anciens habitants, les nouveaux habitants de manière, on espère, naturelle.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet ?
On est parti du constat qu'on entendait beaucoup de gens dire quand on s'est installé ici, oh, il ne se passe rien, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, il faut aller chercher, c'est tout. Mais donc on s'est dit à un moment, on ne peut pas continuer à se plaindre et ne rien faire. Et en fait, le constat était surtout que justement, il y avait plein de, nous-mêmes, il y avait plein de voisins qu'on ne connaissait pas et qu'en ouvrant ce lieu, ça nous a permis justement de les rencontrer, de faire sortir tous les ours des Cévennes et se retrouver. Voilà, c'était essentiellement ça le but et surtout voilà, de proposer des choses toute l'année pour que ça vive un petit peu. Quoi. Voilà.
On est assez concentré et c'est un de nos grands plaisirs autour des familles que voilà, on peut venir boire un verre avec ses enfants, les enfants peuvent jouer, on peut venir avec les cousins, les petits-enfants, etc. Et les choses se font assez naturellement comme à la maison d'une certaine manière.
Alors c'est la deuxième année d'activité, je crois que le village compte à peu près 1300 habitants et il y a 270 adhérents.
Oui, tout à fait.
C'est donc une réussite.
Bah, c'est pas à nous de le dire. En tout cas, nous, on est ravis de tous les gens qu'on a rencontrés qui viennent régulièrement à l'atelier.
Et ça se fait petit à petit parce que, en fait, moi, il y a plein de personnes que l'on croise et qui peut-être nous observaient un petit peu avant pour voir ce que c'était que cette structure et qui maintenant viennent volontiers. Donc, pour ça, on est très fiers en tout cas de ce côté-là.
Il faut ajouter aussi que vous avez des adhérents temporaires.
Oui, comme on est un associatif, un café évidemment qui n'a pas un but commercial, on ne peut servir que les gens qui sont adhérents. Donc pour les gens de passage l'été, on fait une adhésion temporaire au mois pour que les gens puissent venir profiter de l'atelier et que les touristes puissent aussi découvrir notre village, découvrir les habitants et discuter. Et on rencontre des gens étonnants, voire des gens qui à terme vont peut-être avoir envie de venir s'installer dans le village.
Et on a aussi justement on rencontre des gens l'été ou pendant les vacances en tout cas qui viennent parce que c'est un café associatif et qui de même nous disent moi je vais de préférence dans un café associatif et ils viennent nous soutenir et en fait on fait vraiment parfois des belles rencontres, hein. C'est très très chouette pour ça.
Vous citiez l'éclectisme de votre action et c'est vrai qu'en entendant un petit peu le bilan d'activité de cette année, c'est assez impressionnant. Vous allez dans tous les domaines ?
On va dans tous les domaines et en fait, pour l'instant, on ne programme des conférences ou des concerts qu'avec des gens de la vallée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de talents ou de gens intéressants. Ça va de la spécialiste des chiens de protection de troupeaux à une archéologue préventive qui vient de s'installer ici. Et la seule chose qui nous anime, en fait, c'est la curiosité et les gens viennent partager leurs connaissances, leurs compétences de manière très simple, c'est accessible à tout le monde. Et oui, la seule chose qui nous anime, c'est la curiosité des uns et des autres qui nous proposent une conférence, un atelier. On a déjà fait deux expositions aussi avec des artistes qui habitent ici et qui sont impressionnants. On partage les talents collectifs de nos voisins et voisines en fait.
Donc une initiative qui n'était pas gagnée au départ, et là, y compris au niveau de financier, ça fonctionne ?
Oui, ça fonctionne. Par contre, rien n'est acquis définitivement. Donc c'est un exercice difficile quand même tout au long de l'année, assez épuisant. On passe aussi, c'est parfois les montagnes russes parce que justement c'est parfois difficile, trop prenant. Et puis il suffit parfois simplement de faire une rencontre ou une soirée. Et là ça nous remotive, ça nous remonte à bloc pour continuer. Donc c'est ça aussi qui est bien, quoi.
Une de nos adhérentes a trouvé le slogan, elle nous a dit l'autre jour, il n'y a plus d'hiver à Valrhogue, il y a l'atelier. Voilà.
C'est magnifique.
C'est joli quand même, oui.
Il y a une énergie collective qu'on ressent très, très fortement, sur laquelle vous vous appuyez aussi, avec beaucoup de bénévoles.
Oui, oui, encore une fois, là, Olivier et moi on parle, mais on est une dizaine de bénévoles, très différents, mais tous avec la même, les mêmes objectifs. Donc on se répartit le travail, ça circule, les idées des uns enrichissent les idées des autres et oui, heureusement, on ne peut pas tenir ça à deux personnes et au contraire, il faut que ça se diffuse et être bénévole aussi à l'atelier, c'est on a une jeune femme qui vient d'arriver dans le village, en un mois, elle a rencontré un nombre incalculable de gens, et ça lui aurait pris 3 ans pour créer ces réseaux de sociabilité-là. Donc on sert aussi à ça, à créer très rapidement du réseau de sociabilité et de solidarité, parce qu'on s'aperçoit aussi que maintenant, un de nous a besoin d'un coup de main pour aller abattre un arbre, et ben il a 10 collègues qui viennent lui donner un coup de main.
On a monté des panneaux solaires sur les toits des uns des autres, il y a des chantiers aussi comme ça qui se mettent de façon informelle. C'est pas l'atelier, mais c'est le fait de se retrouver à l'atelier. Nous, après, l'atelier n'a plus rien à voir, si je puis dire, dedans, à part que ce sont des adhérents ou des bénévoles de l'atelier qui... Ce qu'on peut ajouter aussi, parce qu'on a eu plusieurs retours de ce type-là, notamment cet été, c'est des gens qui sont d'ici, qui s'approchent de la retraite, qui se posent la question de savoir s'ils ont envie de revenir ici, en se disant, ouais, quand même, c'est un peu, c'est un village un peu mort l'hiver, en dehors de l'été. Et en fait, en voyant ce qu'on fait, ils disent... remettre en question, si je puis dire, en se disant peut-être que finalement je vais revenir ici parce qu'il se passe quand même quelque chose. Alors bon, on ne veut pas tirer toute la couverture à nous, mais ça participe en tout cas à ça.
Mais encore une fois, il y a plein d'autres associations à Valrhogue avec lesquelles on travaille. On travaille beaucoup avec la mairie qui fait énormément de choses pour la commune. Et notre objectif et notre manière de travailler, c'est d'être complémentaires les uns avec les autres. Encore une fois, il y a plein, contrairement aux apparences, il y a énormément d'activités, d'associations. Et on a le luxe, nous, d'avoir monté un café, un espace qui peut servir de lieu pour se rencontrer. On a tout bêtement l'association de parents d'élèves qui fait ses réunions maintenant à l'atelier parce qu'il y a une pièce où on peut servir un café, où on peut faire une réunion. Donc encore une fois, on est complémentaires dans un tissu social qui existait bien avant nous et qui existera bien après nous, évidemment. On n'est qu'une petite part au milieu d'une vie collective d'un village des Cévennes.
Ça participe, comme vous le disiez, à la redynamisation du territoire, à faire du lien social, du lien artistique. Cette reconnaissance, elle commence à se faire aussi au niveau des institutions.
On a réussi à avoir une subvention de la DRAC et de la Comcom, donc c'est, je pense qu'il pour la pratique musicale en milieu rural. On a fait 2 expositions, dont la dernière avec Viviane Dahl, qui est une grande photographe professionnelle, avec un soutien de la filature du Mazel, qui est soutenue par la région, le département, etc., etc. Donc au niveau local, on est effectivement en train de tisser des liens avec les institutions, mais encore une fois, notre objectif n'est pas de se développer, notre objectif est de travailler pour la commune et la vallée au sens large, et de faire émerger, enfin de proposer un espace pour tous les talents qu'on a dans notre petite communauté. Mais oui, on tisse des liens avec différentes institutions pour leur plaisir et notre plaisir aussi. Enfin, c'est là aussi, on est très organisé, très informel. Voilà, c'est des rencontres et si on s'entend et on a fait venir le responsable de l'ONF de l'Égual, évidemment, on va travailler avec l'ONF du Mont-Égual. Voilà, on travaille avec le tissu local et on s'insère, nous, avec notre petite part, dans le tissu local.
Le fait, par exemple, que l'association des parents d'élèves se réunisse ici, ça a permis, quelques jours après, de faire venir les 3 classes de l'école de Valrhogue qui ont visité l'exposition avec leur enseignant. Et pour nous, c'est quand même aussi quelque chose de... Enfin, c'est porteur, quoi. Qu'on puisse donner aussi accès à tout le monde et que... Voilà.
Donc un vrai projet citoyen à l'atelier de Valrhogue qui compose de façon constructive avec la mairie, avec le pouvoir public. L'avenir de ce projet, vous le voyez comment ?
Step by step. Voilà. Depuis le début, on est dans une technique des petits pas. On fait ce qu'on est capable de faire. On accueille les gens. On voit comment les choses se transforment. Et déjà pérenniser tout ce qu'on a mis en place. Et déjà, on apprend au fur et à mesure. Donc, Et puis voilà, la vie, tout bêtement. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
Mais c'est très bien. Voilà. Merci Annie et Olivier. Et bonne continuation.
Merci.
I'm just across her.
Take Me Out du groupe de Glasgow Franz Ferdinand, patronyme qui leur est venu en regardant une course de chevaux dont l'un des concurrents portait le nom de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Un changement brutal après son assassinat. Dans le dernier Alter Mini Mag, il est question de vivre sa jeunesse, jeunesse au pluriel, dont il est beaucoup question dans les discours publics, culturels ou politiques. En préparant ce numéro, on s'est interrogé sur la définition même de la jeunesse, la limite temporelle, la manière de l'envisager. Notre approche s'est finalement placée sous le signe de l'écoute. Nous avons pris le temps nécessaire pour donner à lire ce qui relève généralement du non-dit ou du non-exprimable. Retenir l'intitulé « Vivre sa jeunesse » s'entend aussi bien comme une affirmation qu'une interrogation portée sur les conditions mêmes de possibilité de la jeunesse. Nos colonnes s'ouvrent sur un corpus d'auteurs inconnus et de témoignages recueillis ici et ailleurs. Au fin fond du désert du sud-ouest algérien, Brahim, 24 ans, rêve d'horizon et de liberté. « Nous ne sommes pas des bêtes qui se laissent dominer », dit-il dans le reportage que nous avons réalisé au Sahara occidental. Plus proche de nous, il et elle racontent par petites touches, tout en nuances, évoquant le rapport aux autres, l'apprentissage, le déroulement de leur journée et de leur nuit, leur expérience professionnelle, sociale, politique, amoureuse, corporelle, éducative. On lit dans la somme de ces expériences subjectives un changement profond dans une société de la longévité qui fait aujourd'hui cohabiter plus de 5 générations simultanément. À travers le statut transitoire et précaire de la jeunesse s'affirme paradoxalement une conscience qui touche de plein pied aux politiques. Un engagement clair-obscur, car dans le Midi comme ailleurs, la précarisation et l'absence de perspective qui se généralise pour une part conséquence de la jeunesse est habilement mise à profit par des groupuscules d'extrême droite. Nous consacrons dans le magazine un sujet à l'émergence de la jeunesse brune en Europe. Le constat est là, la majorité des jeunes ne croient plus en la politique comme levier pertinent pour changer leur vie. Cela se mesure dans le triptyque défiance, politique abstentionniste, culture protestataire qui pose une question éminemment politique en lien direct avec la crise démocratique. Entre solitude et précarité, les jeunes font partie des plus affectés par les crises économiques et sociales. Dans ce contexte, les politiques et aides publiques accompagnent-elles convenablement la jeunesse à entrer dans l'âge adulte ? On en parle avec Sandrine Floureuse, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne, en charge du dialogue citoyen des égalités et des jeunesses. En se gardant des présupposés objectivés par la médiation d'institutions sociales, politiques ou médiatiques, la collectivité territoriale mène en Haute-Garonne une action assez singulière.
Comment s'est bâti votre politique en direction de la jeunesse au départ?
Alors, il y a deux choses. Alors déjà, nous, on n'a pas le terme « jeunesse » au singulier, ouais. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des jeunesses. Ne serait-ce que par les compétences du département, on a des compétences obligatoires où on s'occupe de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, ouais. L'ASE, et donc on a des jeunes qui sont en difficulté, en précarité, en difficulté parce que soit on nous prévient, ils subissent de la maltraitance et donc on s'occupe de tous ces jeunes que l'on va placer avec le procureur de la République. Donc on a cette compétence immense de l'aide sociale à l'enfance, ouais. Qui est très vaste. Et après, on a aussi des jeunes qui sont des jeunes étudiants, des jeunes en recherche de stage, des jeunes avec des problématiques de logement, une vie de jeunes, quoi. Ouais. Et donc, on a, à côté de nos compétences obligatoires, on a fait le choix d'avoir une politique très volontariste en direction des jeunesses. Et donc, on a mis en place, et c'est là que je vous rejoins, et ce qui n'est pas facile, et donc c'est génial que vous m'en parliez comme vous l'avez fait au début, ouais. On est allé vers les jeunes, ouais. Et on s'est dit qu'on allait construire nos politiques publiques en direction de la jeunesse avec eux. Et contrairement à des élus qui ont des codes, un cadre juridique, financier, on est allé voir les jeunes et on leur a dit, ben, dites-nous ce dont vous avez besoin. Quelles sont vos préoccupations ? Quelles sont vos priorités ? Et donc, pendant 2 ans, on est allé à la rencontre de tous les jeunes de la Haute-Garonne. D'abord, on est allé dans tous les territoires parce que à Haute-Garonne, il y a une grande diversité territoriale. On ne vit pas à Toulouse comme on vit même dans la métropole toulousaine, parce que des fois il y a des problèmes de mobilité, on n'a pas accès aux mêmes services, et alors on n'a pas accès aux mêmes services si on vit à Villemur, à Saint-Gaudens ou au fin fond de Luchon. Donc on est allé voir les jeunesses, on est allé leur demander quels étaient leurs besoins, leurs priorités, et c'est comme ça qu'on a construit notre premier plan départemental de la jeunesse. Le premier plan départemental, il a été construit avec tous ces jeunes que l'on a rencontrés. Et on s'est aperçu que leur priorité n'était pas forcément celle que l'on avait imaginée. Nous, depuis des années, on facilite l'accès au sport, l'accès à la culture. Ouais. Les jeunes, ils ont des fois des préoccupations qui n'ont rien à voir. Ils ont, avec ce que l'on fait, même si ça les intéresse, eux, ils voulaient qu'on leur créer des outils pour être autonome. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle Initiactive, qui est un fonds et à la fois de l'ingénierie pour accompagner les jeunes quand ils ont une idée qui leur tient à cœur, qui a un impact sur le territoire. Eh bien, on les accompagne à créer leur projet et on les finance. Eux, ils veulent des outils d'émancipation et d'autonomie parce qu'ils sont engagés. Et quand on nous explique toute la journée, cette jeunesse, elle est moins bien que machin, nani, nana. Écoutez, des jeunes engagés, il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant qui sont altruistes, qui sont empathiques. Et ces jeunes-là, ils nous demandaient de les accompagner. Donc, on a créé cet outil. Et puis, on a créé un deuxième outil qui est pérenne. C'est qu'une fois qu'on avait recueilli la parole des jeunes, on a créé un groupe miroir. Alors, le nom n'est pas très parlant, mais ce sont des jeunes qui viennent de tous les territoires, ils viennent tous les mois, quand ils veulent, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, quel que soit leur statut, il y a des jeunes chômeurs, des jeunes étudiants, des jeunes qui bossent, et ils viennent nous donner leur avis, à la fois sur des sujets que l'on choisit, je prends un exemple, les violences ou le harcèlement, ou alors des sujets qu'ils veulent traiter avec nous pour qu'on leur amène des solutions. Et donc tous les mois, on réunit les jeunes maintenant depuis plus de 3 ans et demi, et tous les mois, ils viennent contribuer à écrire nos politiques publiques en direction de la jeunesse. Et donc, pour nous aussi, il a fallu s'adapter. C'est pas si simple comme ça. Une fois qu'on leur dit, on va vous écouter, de prendre en compte et de mettre en musique ce qu'ils nous ont dit, parce que on a, comme vous avez des codes journalistiques. Nous, on a un cadre juridique d'intervention, on a un cadre financier avec des ressources plus ou moins extensibles, plutôt moins d'ailleurs. Et donc, on s'est adapté et ça marche très très bien. Très, très bien.
Alors, juste c'est-à-dire quelques compléments d'informations. Sur la première partie de votre démarche, quels moyens vous vous êtes donné pour aller à la rencontre des jeunesses dont vous parlez
Alors, quels moyens on s'est donné Déjà, on a mis des moyens en termes humains. C'est-à-dire qu'on a créé une mission jeunesse avec une directrice et avec une équipe dédiée, totalement dédié à cette compétence facultative d'aller voir les jeunes et d'aller chercher des jeunes. Donc, ces collaborateurs sont allés sur tous les territoires. Et puis, on a aussi, depuis des années, des relais qui sont toutes les associations d'éducation populaire qui travaillent avec nous et que l'on finance. Et donc on s'est appuyé également sur toutes les associations, les maisons des jeunes et de la culture, il y en a 35 en Haute-Garonne, les Franca, enfin toutes les associations, Léo Lagrange, toutes les fédérations qui sont en contact avec les jeunes. Et donc le CRIJ, et on a travaillé avec eux et on est allé sur tous les territoires avec cette mission parce qu'on a dédié des moyens. Donc, ce sont des moyens financiers, dédier toute une mission avec des collaborateurs pour qu'ils aillent sur le terrain, c'est pas neutre financièrement.
Bien sûr, bien sûr. Et quand vous parlez notamment de l'opération Miroir, vous dites que les jeunes viennent tous les mois. Quel est le panel ? Comment il est constitué, ce panel de jeunes ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes ?
Non. Non, on a eu 230 jeunes. On a 230 jeunes qui sont dans nos fichiers et ce sont des jeunes qui viennent. Alors souvent c'est du bouche à oreille. Ce sont des jeunes qui sont venus parce qu'ils ont fait un service civique et qu'on a créé une mission départementale de l'engagement unique en France, qui consiste à accompagner les jeunes une fois qu'ils ont fini leur service civique. Ce sont les élus qui sont parrains et marraines de ces jeunes.
Ah, c'est intéressant, ça, ouais.
Oui, ouais, j'en suis très contente puisque c'est moi qui l'ai initié en 2016. On avait rencontré Martin Hirsch qui à l'époque avait créé le service civique et avait créé cet Institut national de l'engagement. Et donc ça a commencé un peu avec eux. On a des services civiques aussi dans nos services. On travaille avec le Parlement des étudiants. Et donc on a réuni tous ces jeunes que l'on avait rencontrés. Et puis eux parlent à d'autres copains, à d'autres jeunes. Et puis on a travaillé avec la mission locale qui était allée chercher des jeunes dits invisibles qui sont dans aucune statistique. Et donc ces jeunes, on les a réunis une première fois et puis ils ont appelé leurs copains. Alors certains sont revenus, d'autres pas. Puis certains ont bénéficié du dispositif Initiative. Et donc ils l'ont dit à d'autres copains en disant, ben voilà, moi j'ai été accompagnée, j'ai pu financer une idée. Et en fait, c'est ça, c'est cette espèce de bouche à oreille parce qu'on a beau communiquer, on s'aperçoit que le lien de confiance, il ne se fait que parce que quelqu'un est venu, il a vu qu'on prenait en compte sa parole et qu'il l'a dit à d'autres. On a beau communiquer, on pourrait mettre 10 millions d'euros, je dis n'importe quoi, sur une campagne de communication. Le lien de confiance, il ne se crée que parce que quelqu'un est venu. Il a vu, il a vécu quelque chose qui lui a plu et il l'a dit à d'autres copains. C'est uniquement comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Et c'est vrai que nous, la majorité des jeunes que nous avons rencontrés, ce qui ressort, c'est qu'ils ne croient plus vraiment à la politique comme levier pertinent pour changer leur vie. Et donc, l'intérêt, c'est de partir justement de ce qu'ils vivent. Les espaces de construction démocratique dont vous me parlez, est-ce que vous pensez que ça peut évoluer dans le temps? Est-ce que...
Ah oui, parce qu'en plus au département, on a depuis 2015 énormément développé la participation citoyenne, ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est là pour effectivement, comme vous le dites, recréer un lien de confiance entre les citoyens et les institutions. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on voit 60%, voire 70% de taux d'abstention des jeunes aux élections, il n'y a plus de crédibilité des institutions, alors qu'en fait, quand ils viennent, c'est ce que j'essayais d'exprimer, quand ils viennent et quand ils voient à quel point on est à leur écoute, on transforme leurs paroles en dispositif, on les accompagne avec toute la sincérité du monde, la mission de l'engagement, c'est le meilleur exemple. Quand on fait chaque année la rencontre sous forme de speed dating avec les élus, les jeunes nous disent, mais on n'imaginait pas qu'on allait rencontrer autant d'élus, autant à l'écoute et qui nous ouvrent leur réseau et leur carnet d'adresses pour nous accompagner. C'est vraiment un gros déclic. Et les jeunes, ils reprennent foi parce que c'est très concret, parce que c'est très vécu. Et ça marche. Donc moi je crois qu'il faut qu'on développe la participation citoyenne comme on le fait au département. On a eu 20 000 personnes qui sont venues depuis quelques années dans toutes les concertations que l'on ouvre et ça va de pair. Et la jeunesse, eh bien, on l'invite régulièrement dans toutes les actions de participation citoyenne parce qu'il faut qu'on entende leurs paroles et puis une fois qu'on l'a entendu, il faut aussi que concrètement, après, on prenne en compte leurs propositions et on les concrétise. Parce que ça ne suffit pas d'écouter. Il faut aller au-delà de l'écoute.
Vous me devancez, à vous de me devancer sur la question que j'allais vous poser. C'est, effectivement, il y a cette étape préalable incontournable qui est celle de l'écoute. Je dirais ensuite le fait de mettre à disposition des moyens de réalisation par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, c'est aussi une étape très importante. Et si on va un peu plus loin, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut inventer de nouvelles politiques publiques, quelles sont ces nouvelles politiques publiques à imaginer concernant les différentes crises qui peuvent se poser à eux, la société de la longévité avec cette cohabitation intergénérationnelle qui n'est pas forcément en leur faveur, la crise climatique, la crise de l'emploi. La question, c'est aussi, vous en tant que responsable politique, En quoi ce rapport à la jeunesse qui semble direct et sincère peut modifier les politiques publiques?
Bien, je vais vous donner un exemple très concret. Après la crise sanitaire, on a réuni notre groupe Miroir. Et on leur a dit quelle est votre principale priorité depuis cette crise. Et ils nous ont dit notre principale priorité, c'est que vous vous occupiez de notre santé mentale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est hyper angoissé. Vous venez d'évoquer la question de l'intergénérationnel, de la place des jeunes, la question de la crise climatique qui nous touche tous de plein fouet et qui modifie nos façons de vivre, nos modes de vie. Et donc, on a travaillé avec eux sur la santé mentale. Et très concrètement, on a mis une plateforme en place de psychologues, d'écoute, pour qu'ils puissent eh bien, tout simplement discuter, reprendre confiance en eux, avoir une autre estime de soi. On a aussi une maison des adolescents qui fait ça. Et donc, voilà, on a répondu de manière très, très concrète. Ils nous ont dit problématique de santé mentale, problématique d'écoute, il faut qu'on puisse parler parce qu'on est dans une société anxiogène. Et donc, on a mis une plateforme dédiée de psychologues qui est à leur écoute et puis des psychologues qui peuvent aller voir dans les maisons des solidarités qu'on a partout dans le département. Voilà, c'est extrêmement concret. Après, moi, j'en reviens toujours à un élément auquel on n'avait pas pensé parce qu'on est toujours dans le très, très concret dans le département de la Haute-Garonne. Ce qui est bien, mais c'était la question de l'autonomie. Ils ont besoin d'avoir des outils d'autonomie. Et donc, le fait d'avoir créé une initiative et de leur dire, vous avez une idée, eh bien, on la prend, on vous accompagne, on crée le projet avec vous, c'est votre projet et on le finance. Ça, c'est aussi un outil qui fonctionne très très bien. On a subventionné 178 projets et ça fait, j'allais dire, ça fait des petits, ça fait des émules en tout cas. Et ça fonctionne, ils se le disent, ils viennent et ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en l'institution qui les écoute, qui les accompagne et qui met les moyens financiers parce que chaque fois on finance, on ouvre des portes pour des financements complémentaires, c'est très très concret et ça correspond vraiment à leurs besoins d'émancipation et d'autonomie. C'est plus large que on a une question sur le sport ou on a une question sur la transition écologique. Non, c'est des outils d'autonomie et d'émancipation qu'ils veulent et c'est ce qu'on a mis en place avec eux.
Vous êtes sur Radio Escapade, on vient d'entendre Sandrine Floreuse, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne en charge du dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses, qui répondait aux questions d'Alter Midi, qui consacre une grande partie de son dernier magazine à la jeunesse. La politique menée de soutien au projet des jeunes est dotée par le département de Haute-Garonne d'un budget de 170 000 euros. Les projets pouvant recevoir d'autres financements en fonction du domaine d'activité de ces projets. Ce n'est pas un détail et c'est important de le préciser, car en matière de politique publique, nous avons ce réflexe, pas toujours apprécié, de mettre en regard la ligne budgétaire avec les intentions déclarées. History Tour, un morceau enregistré en avril 1967, remasterisé en 2009 dans la version qu'on vient d'écouter. La jeunesse joyeuse des Beatles semble bien loin, et pourtant la jeunesse d'aujourd'hui sait toujours faire la fête. Face à la pluralité de jeunesse, il conviendrait plutôt de parler des jeunesses. Une partie des jeunes se trouve dans le mal-être psychique dont il est beaucoup question. Le problème étant souvent qu'on s'intéresse plus aux conséquences qu'on ne s'attache à agir sur les causes. 25% des 6 millions d'habitants vivant en Occitanie ont moins de 25 ans. La grande concertation entreprise par la région Occitanie pour élaborer son nouveau plan jeunesse fait apparaître l'orientation comme première préoccupation. Ce qui n'a rien de surprenant puisque nous avons un des systèmes scolaires les plus inégalitaires des pays dits développés. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique des pays développés, classe la France parmi les plus mauvais élèves dans le domaine de l'égalité. Sur plus d'une trentaine de pays, la France figure tout en bas du tableau. Seuls Israël et le Luxembourg font moins bien. Pour le Conseil de l'évaluation de l'école de l'organisation, réduire les inégalités passe par une revalorisation du métier d'enseignant. Là encore, les salaires des profs français sont parmi les plus faibles de l'OCDE. Malgré les annonces du gouvernement qui déclare par la voix de son président s'attaquer à ce problème, lorsqu'on entre dans le concret, les syndicats enseignants quittent la table des négociations. Ils dénonçaient au printemps sur la partie pacte de la hausse des rémunérations des enseignants un alourdissement de la charge des personnels, de travail des personnels, qualifiant la proposition du gouvernement de pacte faustien. C'est vrai qu'il est peu probable que le bilan de la politique de l'éducation vienne redorer le blason d'un président considéré par beaucoup de Français comme hors sol par rapport à leurs préoccupations. En septembre, le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a tenté de faire diversion en montant en épingle un problème qui n'en est pas. Il a même tenté à cette occasion de choisir l'angle de couverture de la rentrée scolaire à la place des journalistes. Résultat, il est interdit de porter l'abaya à l'école. On n'évite pas la polémique inutile, on s'en saisit, ça ne coûte rien et ça renforce la capacité du gouvernement à trouver une majorité ponctuelle avec la droite dure et l'extrême droite. Pas de quoi raviver le goût de la jeunesse pour la politique. Cette stratégie politicienne renforce en revanche les frustrations qui conduisent une partie des jeunes à se radicaliser au sein de groupuscules nationalistes identitaires. Nous consacrons dans le dernier Altermidi un article aux stratégies des organisations d'extrême droite visant à attirer les jeunes désœuvrés dans leur filet un peu partout en Europe. Dans l'éducation comme dans la société, le système ne trouve pas de place pour une partie de la jeunesse. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, mi-septembre, 13 500 lycéens admis en seconde n'étaient pas affectés. La défenseuse des droits Claire Hédon, qui a fait de l'accès à l'éducation pour tous l'un de ses dossiers prioritaires, soulignait il y a peu dans un entretien donné au journal Le Monde que la volonté du gouvernement de développer la voie professionnelle ne veut pas faire l'impasse sur ce problème majeur de la non-affectation de tous les lycéens concernés. Si on lit le code de l'éducation, ajoutait-elle, il est écrit que le service de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. Avec ces défauts d'affectation, on voit bien que ce n'est pas le cas. Ces faits qui se répètent d'année en année démontrent le défaut de gestion et de manque d'anticipation du ministère qui serait bien avisé de résoudre cette équation plutôt que d'agiter des polémiques sur l'abaya ou d'ouvrir le débat sur le retour de l'uniforme à l'école. Les jeunes doivent pouvoir partir en vacances en sachant dans quel lycée ils vont suivre leur scolarité. Il faut aussi une bien meilleure information des familles sur l'orientation. Ne pouvoir s'adresser à personne s'avère redoutable pour les jeunes et leurs parents. Ils ont besoin de savoir. Parler plus qu'elle ne parle, objet plus que sujet, les jeunesses sont souvent instrumentalisées. Dans son dernier numéro, Alter Midi Mike leur donne la parole. Cette petite goutte d'eau nous donne envie d'aller plus loin, en offrant des moyens aux jeunesses pour s'exprimer, revendiquer, s'amuser. Alors qu'on se le dise, au sein du bimédia citoyen Alter Midi, les espaces sont ouverts. Vous pouvez contacter la rédaction pour imaginer des collaborations sur Facebook, Twitter ou par mail redaction@altermidi.org. Tom, Rachel, Mia, Arthur, pour le MAG, ils sont une quinzaine entre 12 et 29 ans à avoir accepté de contribuer à la proposition que nous leur avons faite d'évoquer à la fois les joies et les difficultés de vivre. On écoute tout de suite Rachel, 15 ans, un des trois podcasts de la rubrique Hiatus à retrouver en accès libre sur le site d'Info Intermidi. Rachel dialogue avec la poète Lily Frick en charge de cette rubrique. Elle parle de guerre, de la différence, de l'amour. « Je vis très bien dans ce monde, mais il va y avoir des choses à faire », dit-elle.
J'ai 15 ans.
C'est génial.
Quand Marianne, du coup, m'a envoyé un message en disant que vous faisiez un article sur vivre sa jeunesse, j'ai tout de suite pensé à la liberté qu'on peut ressentir en étant jeune, avec ce qu'on aime faire. Par exemple, moi, j'aime beaucoup écrire, donc pour moi, c'est ma liberté, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui adorent dessiner et c'est ça leur liberté. Donc pour moi, ma jeunesse, c'est être libre de découvrir qui on est.
Oui. Comment vous voyez ça, ce lien entre liberté et écrire?
Alors, ma mère est comédienne. Elle a travaillé sur le festival de poésie. Depuis que je suis née, je baigne dans la poésie en allant sur le festival.
Oui.
Donc j'ai toujours écrit. Et puis depuis février cette année, je suis rentrée au lycée. Dans un lycée comme la filière art appliqué. Donc je me suis mise à dessiner. Et puis en février, j'ai repris l'écriture et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture pour moi, c'était pas du tout un refuge où je pouvais m'apaiser, mais au contraire me confronter à mes propres émotions, à mon amour, à ma colère, à ma peur, à ma joie, à tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, l'écriture n'était pas un refuge, mais une liberté où on pouvait se confronter en fait à qui on est.
Oui.
En fait, son propre étranger. Pour moi, quand j'écris, j'ai l'impression que c'est pas moi directement qui écris, mais c'est l'étranger qui est à l'intérieur de moi. Et du coup, pour moi, c'est se confronter à cet étranger et c'est une liberté. Je suis jeune et j'ai des idées, des opinions, un caractère à confronter aux autres, à des inconnus, à des amis, à la famille. Et c'est pas toujours entendu parce que on est jeune et je trouve que c'est pas juste.
T'as le sentiment de pas être entendu parce que tu es jeune?
Oui, par beaucoup de personnes. Quand on écrit, on peut pas nous couper la parole.
Oui.
Donc on peut aller jusqu'au bout.
J'adore ce que tu viens de dire. Tu peux me parler de ça, de ce que tu sens comme ça, qui fait que tu as besoin d'écrire?
Ouais. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Oui. Et avec ma mère, j'ai tout le temps mangé avec les grands. J'ai toujours été écoutée.
Oui.
Mais par contre, du côté de mon père, la table des enfants... On est un enfant, du coup, on se plie à tout ce qu'on te demande, on t'écoute pas jusqu'au bout, que tu sois d'accord ou pas, c'est l'adulte qui décide. Donc, en fait, j'ai grandi voilà, dans ces deux milieux différents, avec ma mère, où c'était très ouvert, et avec mon père, qui m'a jamais écouté. Pour moi, je pense que l'écriture est aussi un moyen de peut-être lui faire entendre certaines choses, mais avant, je lui montrais des textes et même des dessins, et il avait aucune réaction.
Oui.
Donc j'ai quand même continué à écrire. Par exemple, sur le festival de poésie, j'ai fait une scène ouverte et tout le monde a été très, très percuté. C'est pas parce qu'on est jeune, qu'on a moins de 18 ans, moins de 20 ans, qu'on n'a pas le droit d'être écouté jusqu'au bout, que forcément nos idées sont moins poussées, moins intéressantes que celles de personnes plus âgées.
Moins profondes, moins abouties,
ouais.
C'est ça?
Voilà, oui.
Et c'est ça que tu sens. Tu sens que le fait d'être jeune, ça t'enlève du crédit.
Oui, vis-à-vis de certaines personnes, moi plusieurs fois, je discute discute avec ma mère ou une amie à ma mère, mon oncle et tout, il y a une personne qui arrive et qui va presque dans sa manière de se comporter me pousser pour elle parler et que moi j'arrête du coup. Et ce sentiment, c'est vrai que je l'aime pas du tout, je trouve ça très désagréable quand même. Bon, vous me direz, il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont poussés par certaines personnes, mais quand on est jeune, ça arrive très souvent.
On peut être écrasé beaucoup plus facilement, presque naturellement. Oui, c'est ce que tu sembles dire.
Alors c'est sûr que quand on a 15 ans, c'est sûr qu'on n'a pas la même expérience, mais j'ai l'impression parfois que certaines personnes, qu'en gros, nous, on a les conversations... sans aucun intérêt, alors qu'on peut en avoir, c'est juste qu'on ne prend pas forcément le temps de nous écouter.
Vous sentez que vous avez des choses importantes à dire. Et que si vous étiez écouté, y a des choses qui pourraient aller mieux. À quel niveau?
Bah alors, moi, par exemple, j'aurais besoin, envie d'être écouté plus dans la famille de mon père, qu'il sache que j'ai quelque chose à dire et que c'est pas... plusieurs fois parler à mon père et je me suis fait traiter d'égoïste parce qu'il ne m'écoute pas jusqu'au bout. Pour lui, je suis l'enfant, c'est à moi de faire les efforts, c'est à moi de prendre sur moi, sauf que oui. Pour moi, c'est ce que mon père a toléré, c'est d'accord, mais moi, je ne veux pas forcément le tolérer et ça, il ne prend pas le temps de m'écouter, il ne prend pas le temps de comprendre et du coup, ouais, c'est...
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir des valeurs différentes de ton père? De voir la vie différemment, par exemple.
Totalement, oui.
Ah, totalement différemment. Par exemple, est-ce que tu peux m'aider à voir les choses qui diffèrent?
Moi, par exemple, je vois, j'ai un univers. Je peux d'un coup plus parler et totalement être dans mon univers. Lui, il n'a pas de passion, il n'a pas quelque chose qui l'anime et le fait vivre. Et plusieurs fois, il m'a dit c'est pénible quand tu fais ça avec toi, on ne sait pas si ça va, si ça ne va pas. Presque comme si j'étais en train de faire quelque chose de pas bien, en fait.
Oui, c'est parce qu'il ne sait pas où tu es.
Voilà, il ne sait pas où je suis.
Il ne sait pas où tu es.
Il n'a jamais essayé de comprendre cet univers. En fait. Il n'a jamais essayé d'y rentrer.
Et lui, il est dans un univers totalement différent.
Il n'a pas d'univers.
Pourquoi tu penses qu'il n'a pas d'univers?
Ben, il suit en fait un peu son père, donc mon grand-père est mort quand il était très jeune. Du coup, son grand frère a tout de suite pris le rôle de l'homme de la famille.
Oui.
Et depuis toujours, il suit ça en fait. Il a jamais voulu s'opposer. Ça n'a rien à voir avec l'univers, mais.
T'as le sentiment en fait que ton papa, il vit pas sa vie à lui.
Il vit sa vie par ce qu'on lui dit, par ce qu'il faut faire selon les autres.
Alors que toi, justement, tu veux vivre ta vie à toi, en fonction de tes émotions, en fonction de tes idées.
Voilà. Sauf que moi, je me sens quand même différente. J'ai pas envie de pas poser de mots sur ce que je ressens, sur ce que j'ai envie de vivre et tout. Et ça ne le comprend pas. C'est quand même à moi de faire les efforts. C'est de toute façon, tu fais comme si de rien n'était. En gros, moi je tolère, donc toi aussi tu vas tolérer. Sauf que pour moi, c'est pas possible.
Oui. Et t'as essayé?
Mais j'ai fait les efforts pendant 10 ans avant de lui parler.
D'accord. Donc t'as le sentiment que vivre ta jeunesse, là, ça va être désobéir.
Oui. Au début, moi, ça a été très compliqué quand ils sont séparés. Avec l'arrivée de ma belle-mère, c'est faire. Ma belle-mère, c'est... je veux tout contrôler. Donc elle a tout de suite pris beaucoup de place et papa l'a laissé faire puisque elle lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Du coup, ça l'arrange, il n'a rien à réfléchir en gros. J'exagère un peu, mais.
J'entends ce que tu dis et ça me permet de comprendre en fait. Tu as dû tout de suite te battre pour faire comprendre que toi, c'est toi qui décides de ta vie. Et l'écriture, c'est ce que tu as trouvé ou ce que tu as choisi pour.
J'ai envie de dire ce qui est venu à moi, comme c'était une évidence.
Oui. Oui, je comprends très très bien. J'ai compris ce qu'il y avait en jeu, si tu veux, c'est-à-dire contre quoi tu t'es battu et tu vas certainement continuer à te battre au sein de ta famille, mais au sein du monde dans lequel tu es. Parce que tu es dans ta famille, mais tu es aussi dans un certain monde, à une certaine époque. Est-ce que le monde dans lequel tu grandis, dans lequel tu es jeune, te convient? Est-ce que tu te bats contre ou est-ce que tu... ou non?
Alors, en soi, je sais pas trop, parce qu'en plus, je m'intéresse pas spécialement à la politique, du coup, je sais pas vraiment. Alors, je sais ce qu'il en est, mais je suis pas assez renseignée.
Oui.
En soi, je peux pas dire qu'il me convient pas, parce que, bon, voilà, je vis quand même très bien dans ce monde, et voilà, mais... bon, il va y avoir quelque chose quand même à faire.
Mais quel est ton rapport, par exemple, sans parler de politique, ton rapport à la technique, ton rapport aux écrans?
Oui, alors, depuis que je suis née, les téléphones portables existent, les réseaux sociaux existent aussi. Je me suis mise, moi, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, en début d'année.
Oui.
Je n'ai uniquement Instagram et Snapchat, j'ai pas envie d'en avoir plus. Après, par contre, bien sûr, j'ai YouTube et Netflix.
Oui.
J'utilise assez souvent Instagram, mais beaucoup pour communiquer avec des amis. Donc voilà. Et après, j'écoute beaucoup de musique avec YouTube et Spotify. Et je regarde énormément de films et de séries. Je prends un énorme plaisir à regarder des films et des séries. Parce que j'ai une passion pour le cinéma.
T'as une passion pour le cinéma, oui.
Ouais, j'aimerais plus tard faire des études et, si possible, travailler.
Travailler dans le cinéma?
Ouais, en tant qu'actrice et réalisatrice.
Oui.
Et du coup, bah, je passe quand même pas mal de temps sur des écrans.
Et tes amis, dans ta jeunesse, les amis, ça, quelle réalité?
Cette année, l'amitié a pris une vraie place dans ma vie. Là, j'ai vraiment découvert ce que c'est d'avoir des amis. Ouais, et d'ailleurs, sans mes amis, j'aurais, je pense, du mal.
La force que ça te donne.
Je pense que sans cette force, j'aurais plus de mal à écrire. En tout cas, j'écrirais un peu moins, je pense. Parce qu'elles m'aident quand même à pas totalement m'effondrer.
Tu dis, elles m'empêchent de m'effondrer.
Il y a une souffrance par rapport à mon père. Il y a une souffrance par rapport à ça. Et mes amis sont vraiment mes piliers, quoi.
Oui, si je dis les choses comme ça, c'est parce que tu peux très bien, ça peut très bien mal se passer avec ton père et en avoir rien à faire. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu as besoin d'être compris, tu as besoin de te sentir exister. L'amitié, c'est un sentiment très très fort, c'est humain.
Oui, je comprends totalement.
Les relations humaines, c'est partie de tes valeurs.
Oui.
Parce que aussi, on pourrait s'attendre à ce que les jeunes qui sont nés avec le numérique et la technique s'éloignent, tu vois, de ce genre de sentiment.
Non, au contraire. Enfin, moi, je vois dans les personnes que je côtoie, on sent que le rapport humain reste très, très important pour nous. Et comme avait dit Grand Corps Malade, j'ai besoin des autres pour bien vivre.
Oui. Est-ce que tu lis?
Je lis, oui, je lis. Alors, en ce moment, j'ai un peu de mal à lire, mais je lis beaucoup de poésie. Donc ça, je le lis assez facilement, entre guillemets. J'arrive très vite à ouvrir un bouquin de poésie et en lire, ce qui m'aide aussi à écrire après.
Oui.
Mais j'aime aussi beaucoup lire des romans, j'aime beaucoup lire des livres sur la guerre.
Et qu'est-ce qui te passionne dans la guerre?
Je sais pas, cette période qui est totalement horrible, hein, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, ce génocide des Juifs avec les centres de travaux forcés, les camps de concentration, la déportation, tout ça, c'est... Je sais pas, je pourrais pas trop l'expliquer.
Ça touche
pas. Tout de suite intéressée. Et... Oui, puis ça m'a toujours interpellée. On tue des gens juste parce qu'ils ont une nuance de différence, et ça m'a toujours... Comme si la différence était une mauvaise chose, alors que pour moi, c'est la plus grande des forces. Quoi.
Tu te sens différente aussi?
Oui,
tu me l'as dit dès le départ, qu'il n'était pas question que tu mettes pas des mots sur cette différence, donc que tu te taises.
Oui.
Pour toi, la différence, ça fait partie de la vie.
Ouais. Plus on est différent, mieux c'est.
Tu as le sentiment que les jeunes acceptent mieux la différence?
Oui, ma génération, en tout cas, je suis née en 2007. Donc je pense que ma génération, mais surtout là, les 3-4 années de 2004 à 2007-2008,
oui.
Je trouve qu'on est vraiment les années où, moi je vois par exemple par rapport à la sexualité,
oui.
l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité, même maintenant la pansexualité. Pour parler de moi, jusqu'en début de mon année de seconde, j'ai toujours eu des petits béguins pour des garçons. Et puis en début d'année, je suis tombée vraiment coup de foudre, retombée amoureuse d'une fille. Mais je me suis jamais posé de questions. Je me suis jamais dit, bon, bah, du coup, je suis peut-être homosexuelle ou je suis bisexuelle. Je me suis jamais posé de questions. J'ai vécu cet amour. Bon, cet amour pour cette personne est fini. Il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre en ce moment. Mais j'ai pas envie de savoir si je suis homosexuelle, bisexuelle. J'ai pas envie. Rien à faire, en fait, de savoir. Les personnes qui ont besoin de se définir en tant qu'homosexuelle, bisexuelle ou autre, je le comprends totalement. J'ai jamais eu l'idée de faire ce qu'on appelle un coming out, parce que j'en vois pas l'intérêt. Moi, à un moment, j'ai carrément posé la question à papa si ça lui dérangeait que j'aime une fille ou pas. Parce que dans son comportement, je sentais que ça le dérangeait. Ça les dérange pas plus que ça, mais voilà, c'est bien que ça reste chez les autres, quoi. En gros, papa m'a dit non, mais n'en parle pas. Comme ça, tu ne prendras pas les remarques. Mais...
Oui, c'est ce que tu me disais que tu voulais pas tout à l'heure. Tu disais, d'une certaine façon, il m'invite à faire comme lui, à me taire pour avoir la paix.
Voilà.
Et toi, tu veux pas te taire pour avoir la paix.
Non.
Voilà.
Ouais. C'est ça.
Oui, oui. Tu penses que ta mère peut entendre qui tu es?
Ah oui, ben, un jour, je lui ai dit, bon, ben, voilà, je suis amoureuse. Elle s'appelle Louise, mais elle a eu zéro réaction de dire ah ou non, pas du tout. Elle a dit bah oui, très bien, d'accord, fille, garçon, peu importe quoi. Et non, au contraire, vis-à-vis de ma mère, enfin, on peut discuter de tout, il n'y a aucun sujet tabou. Je peux lui dire ce que je ressens sans crainte d'être jugée, sans crainte d'être rejetée et sans crainte d'être le vilain petit canard, ce que je suis en fait dans la famille de mon père.
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu voudrais que tu ne vois pas, qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qui, dans le monde, t'empêche, tu vois, par exemple, et que tu aimerais qu'il change?
Moi, le demain ne me fait pas peur du tout. Ce que j'aurais envie que ça change, et je connais beaucoup de personnes avec qui on est d'accord sur ce sujet-là, c'est rentrer dans les petites cases.
C'est-à-dire, vous ne voulez pas rentrer dans les cases, c'est ça?
Voilà, oui.
Ok.
Oui.
Tu trouves que, franchement, les seules choses qu'on te propose, c'est de te ranger, en fait, comme une bagnole.
De te ranger dans une case ou dans
voilà,
une autre.
Voilà, voilà. Et tu te sens beaucoup plus... Enfin, tu n'es pas ce genre de personne. On ne te range pas. Enfin, on te propose de te formater, en fait.
Voilà.
Et toi, tu sens que tu es libre et sauvage et pas... découpable en morceaux.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. J'ai pas envie de rentrer dans une case ou dans une autre qu'on me propose. J'ai envie d'aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est pas dans les petites cases. C'est entre, c'est beaucoup plus loin. Ouais, j'ai pas envie qu'on me dise bon, ben, c'est soit là, soit là, soit là ou soit là. Dans le design... Toujours aller chercher ce qui n'a pas encore été proposé. Quelque chose de différent.
Apparemment, on vit quand même des temps un peu particuliers qui n'ont jamais eu lieu avant. On est quand même un peu en déséquilibre, en sursis. Et
oui.
Toi, t'arrives, t'as 15 ans dans ce monde-là. L'état du monde ne fait pas partie. Ça rentre pas dans...
Ça rentre pas dans les choses qui me motivent et tout ça. Hein.
Ça change pas la donne pour toi, voilà.
Non, ça change pas.
D'accord.
Ça change pas grand chose pour moi, mais par contre, je vois bien qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je pense que au moment venu, ça viendra et on fera quelque chose. Alors après.
Ta confiance, est-ce que t'as confiance en ta génération?
Oui. Puis oui, j'ai confiance, de toute façon, c'est... Oui, j'ai confiance et il n'y a pas de problème là-dessus.
Tu te sens plus libre avec les gens de ta génération qu'avec les adultes?
Ça dépend de quels adultes.
Ok, d'accord, donc c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question de...
Non.
De personne.
Oui, totalement.
Voilà, ouais.
Alors par contre, là où ça peut peut-être rejoindre du coup la jeunesse, c'est très très quasiment tout le temps. Je discute avec les personnes de la génération de ma mère ou celle d'avant. Donc ma mère a 57 ans. Donc voilà, à partir de 45 ans.
Oui.
Même ça peut être parfois même avant. Ils nous balancent que avant c'était mieux. Que je ressens vachement ça et parfois j'ai entendu mon oncle dire après un dimanche après-midi qu'on avait passé en famille, il dit, plus tard quand tu seras plus grande tu te souviendras de cet après-midi là et tu pourras dire ben eux ils savaient vivre et je l'ai pris comme en gros nous on sait vivre et vous ne savez plus vivre maintenant que vous avez vos téléphones, vous avez les films, les séries qui sont en très grand nombre. Et ça, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais laissez-nous faire avec ce qu'on a maintenant, vous y avec ce que vous aviez avant.
Oui.
Et nous, nous, on a des choses, de la technologie que vous n'aviez pas avant, mais laissez-nous vivre avec ça, laissez-nous faire ce qu'on a à faire avec ça, faites-nous confiance, même si vous, ça peut vous semblez un peu bien, mais bien sûr, ça a changé de avant, hein, ça, mais comme à chaque fois, ça change.
Oui, ça change à chaque fois.
Ça commence à vraiment m'énerver et j'ai envie de leur dire si, c'est juste que vous avez eu l'habitude d'autre chose. Nous, on a cette habitude-là, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien, quoi.
Oui. Qu'est-ce que tu veux laisser là, tu vois, c'est une trace qui sera là. Il y a des traces qui s'effacent et puis on a qui sont plus ou moins fixes.
Oui.
N'hésite pas, même si tu trouves que tu passes du coq à l'âne, moi ça m'est égal. Donc en tout cas, voilà.
Oui.
Non, je te laisse me parler si t'as...
Une phrase là, comme vous venez de me demander, de me proposer, j'en ai peut-être... Une que j'ai écrite dans un poème.
Oui.
C'est un poème que j'avais écrit sur les larmes.
Sur les larmes. Oui.
Sur les larmes. J'avais écrit « Je suis tombée, mais j'avance en rampant au plus près de la terre froide de cette terre à qui je n'ai rien demandé. »
Oui. Tu peux la redire justement tranquillement pour que je la garde.
Avec plaisir.
Oui, je t'écoute.
Je suis tombée, mais j'avance en rampant au plus près de la terre froide de cette terre à qui je n'ai rien demandé.
Merci à Rachel pour la liberté de son expression. Elle a 15 ans, elle n'a pas envie de rentrer dans une case. Elle aime la différence et a confiance en sa génération. Une génération qui demande, attend et exigera sans doute de plus en plus du monde politique, professionnel et familial des outils d'autonomie et d'émancipation. Alter Midi en escapade s'achève. Merci à Antoine pour la prise de son. On se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien.